Voici le journal de Sarah Guibaudot, bonjour.
Bonjour. Le sous-marin La Minerve a été retrouvé par près de 2400 mètres de fond à 45 km de Toulon. Nous entendrons l'émotion du fils du commandant disparu il y a 51 ans. La ministre des Armées, Florence Parly, salue un succès, un soulagement et une prouesse technique. Deux associations vont reprendre leur mission de sauvetage en Méditerranée sous la pression politique. Elles avaient renoncé en décembre à secourir des migrants. Les hypermarchés Leclerc menacés d'une amende à 117 millions d'euros. Le gouvernement accuse l'enseigne de passer par la Belgique pour continuer ses pratiques abusives vis-à-vis de ses fournisseurs. Dans ce journal, l'Iran annonce avoir arrêté des espions de la CIA à Hong Kong en pleine crise politique quand les triades s'en mêlent, le sang coule. Et la météo en France, une deuxième canicule arrive, Sébastien Léas.
Oui, la semaine s'annonce extrêmement chaude. Hein. Une vigilance orange à la canicule est déjà émise sur 21 départements du sud-ouest et du centre-est. Il faut d'ailleurs s'attendre à une extension de cette vigilance orange dans l'après-midi. Cet après-midi, il fera 29 à 38 degrés en général, avec 24 à 30 degrés près de la Manche. Mais sur les régions du sud, les maximales pourront déjà approcher les 40 degrés.
On fait le point avec vous dans une vingtaine de minutes. Une famille d'adoption du Secours Populaire pour partir en vacances.
Bon alors, les garçons, on est prêts à aller à la plage ?
Oui, je suis prêt.
C'est la première fois que j'ai vu la mer. J'ai fait un petit peu de surf. Super bien.
J'avais envie de faire un enfant heureux, donc je me suis tournée vers le Secours Populaire.
Et au cinéma, 10 ans après Avatar, c'est Avengers Endgame qui rafle la mise. 2,5 milliards d'euros de recettes. Les super-héros, machine à cash de Disney, Alexis de Meyer.
Ah oui, l'univers Marvel continue d'asseoir sa domination sur Hollywood. Et la machine à cash Avengers fonctionne encore à plein régime puisque le film Endgame est toujours en salle.
Tous les détails avec vous, c'est parti pour ce 13h.
France Inter.
La Minerve avait coulé le 27 janvier 1968, peut-être après une avarie de bar. Le sous-marin de la Marine nationale a donc été retrouvé au large de Toulon après une nouvelle campagne de recherche démarrée le 4 juillet. Il y avait 52 hommes à bord. Leurs familles avaient parfois perdu tout espoir d'obtenir des réponses. Mais en octobre dernier, elles avaient lancé un appel au gouvernement sous l'impulsion d'Hervé Fauve, le fils du commandant de la Minerve. Il avait 5 ans au moment du drame. Il est évidemment très ému ce matin.
C'est une énorme émotion, la fin d'une très très longue attente. C'est assez difficile à décrire l'émotion qu'on peut éprouver dans un tel cas. Toutes les familles se sont en quelque sorte passé le relais depuis 50 ans pour mener ce combat. Moi au départ j'avais 5 ans, donc j'avais pas l'âge pour me lancer dedans. Mais par la suite il y a eu d'abord les parents, les frères, les sœurs, les épouses et puis maintenant les enfants des marins qui se sont battus pour pouvoir savoir ce qui s'était passé pour pouvoir localiser l'épave.
Est-ce que vous savez ce qui va se passer maintenant que l'épave a été localisée? On va pouvoir la remonter?
Non, c'est un mausolée sous-marin qui représente une tombe collective pour l'ensemble des marins. Et donc, elle restera au fond, comme c'est toujours le cas dans des telles circonstances. Le bateau qui a retrouvé la Minerve, le Seabed Constructor, est en train de la mitrailler de photos. Et j'imagine que ces photos vont être analysées par des spécialistes des sous-marins pour essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui a pu se passer le 27 janvier 68.
La réaction d'Hervé Fauve, le fils du commandant de la Minerve, il répondait à Marie Bernardot sur France Info. Le sous-marin a donc été retrouvé à 2350 mètres de profondeur grâce notamment à de nouveaux calculs qui ont redéfini la zone de recherche, Christelle Marquez.
La Minerve est en trois parties distinctes, localisées dans la fameuse nouvelle zone identifiée après des mois de travail de recoupement par la Marine nationale notamment. Un travail minutieux entrepris en reprenant tous les éléments de l'époque, mais avec un œil neuf, en croisant les différents indices et les données scientifiques récentes. C'est donc sur cette base que la zone a été définie, un carré d'environ 300 km², où l'un des intervenants me confiait il y a quelques jours sa certitude à 100% de la présence de la Minerve à cet endroit-là. Lorsque le navire américain est arrivé sur zone mi-juillet, il a recommencé à zéro le travail entamé par la première équipe française. Les Américains ont utilisé deux drones puissants capables de parcourir jusqu'à 100 nautiques par jour. Des drones qui ont cartographié la fameuse zone à la recherche de grosses masses ou de plus petits objets concentrés, faisant penser à un bateau coulé. Lorsqu'ils ont détecté ces grosses masses, ils ont donc envoyé un petit robot capable de prendre des images qui confirment sans aucun doute qu'il s'agit de la Minerve. La préfecture maritime indique en effet que le nom du sous-marin apparaît très clairement.
Et vous l'avez entendu, les corps des sous-mariniers disparus il y a 51 ans resteront au fond de la mer, mais les familles espèrent que les photos permettront de mieux comprendre ce qui a causé l'accident. Alors que la mer rejette jour après jour sur les côtes d'Afrique du Nord les corps des naufragés, alors que les ministres de l'Intérieur européens sont réunis ce matin à Paris, jusqu'ici incapables de s'entendre sur la répartition de l'accueil des migrants, deux ONG décident de reprendre le large. Médecins sans frontières et SOS Méditerranée ont présenté ce matin leur nouveau navire de sauvetage. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour Sarah.
Et il bat pavillon norvégien.
Oui, un pavillon norvégien, un pays a priori bienveillant selon SOS Méditerranée. L'objectif, c'est d'éviter ce qui a mis fin à la mission de l'Aquarius il y a 7 mois, à savoir un dépavillonnage soudain de Gibraltar puis du Panama sous la pression des autorités italiennes. Frédéric Penard est le directeur des opérations de SOS Méditerranée.
On ne sait pas quelles sont les pressions qui pourront être faites sur la Norvège. On pense que la Norvège sera probablement plus résistante et résiliente à ce genre de pression, notamment parce que cette tradition maritime est sérieuse en Norvège et que la sauvegarde de la vie en mer, c'est quelque chose qu'on ne négocie pas chez SOS Méditerranée, chez Médecins Sans Frontières, mais en Norvège non plus.
SOS Méditerranée a reçu aussi des garanties de l'armateur. Le capitaine du navire qui aura le dernier mot en mer devrait lui aussi refuser de se soumettre à d'éventuelles pressions.
Alors Thibault, cela fait plus d'un an que l'Italie a fermé ses ports aux navires humanitaires. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a encore dénoncé hier l'absence de partage du fardeau sur l'accueil des migrants. Où pourra donc débarquer l'Ocean Viking ?
Eh bien, le bateau ira là où les autorités maritimes lui ordonneront d'accoster. SOS Méditerranée et MSF répètent comme un mantra qu'elles respecteront à la lettre le droit maritime qui impose de débarquer des rescapés en mer dans un port sûr. Donc, partout, sauf en Libye, peut-être en Tunisie, plus certainement en Europe, à Malte ou en Italie. Et en cas de blocage, pas question d'entrer dans un bras de fer avec Rome. Pas question donc de défier Matteo Salvini, comme les capitaines allemandes du Sea-Watch 3, Carola Raquet et Pia Kemp. Asiba H. Sarraoui est conseillère aux affaires humanitaires à MSF.
Notre approche sera de pousser les dirigeants européens à prendre leurs responsabilités. Donc nous ne braverons pas une interdiction très stricte. Donc on se maintiendra dans les eaux internationales entre Malte et l'Italie en espérant que les États européens prendront leurs responsabilités et trouveront une solution et un accord pour les embarquements rapides de ces personnes.
L'Océan Viking peut rester en mer plusieurs semaines. Il peut accueillir à son bord 200 à 300 migrants dans de bien meilleures conditions que l'Aquarius, grâce notamment à des containers installés sur le pont qui permettront de soigner, nourrir et héberger les rescapés.
Merci Thibault Lefèvre avec Arthur Gerbeau à la technique. Pour le gouvernement, Leclerc est un récidiviste. Bercy assigne l'enseigne en justice et réclame une amende record de 117 millions d'euros pour pratiques commerciales abusives. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour.
Le groupe Leclerc n'aurait pas joué le jeu de négociations plus équilibrées avec ses fournisseurs. Il est même accusé d'avoir contourné la loi française en passant par sa centrale d'achat belge.
Oui, depuis 2016, une partie des négociations commerciales du groupe passe par cette centrale d'achat belge, partagée d'ailleurs avec un distributeur allemand. Un regroupement, une concentration d'intérêts économiques qui joue en défaveur des fournisseurs et qui a donné lieu ces dernières années, selon la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, à des pratiques illégales. Légale, pression pour obtenir des prix bas, chantage au déréférencement de certaines marques. Thierry Benoît, député UDI d'Ille-et-Vilaine, préside une commission d'enquête parlementaire sur le sujet. Leclerc, dit-il, est loin d'être la seule enseigne dans le collimateur des pouvoirs publics.
Ils ont tous maintenant leur centrale d'achat européenne et internationale, bien souvent délocalisée en Belgique pour certains et en Suisse pour d'autres. On peut supposer que c'est pour échapper au code du commerce ou au droit français. Quelque part, dans la discussion commerciale, dans la négociation, on peut considérer qu'il y a un abus de position dominante. Celui qui est en situation dominante est en capacité d'exiger des contreparties financières à son interlocuteur.
Contreparties financières lorsque ces groupements de distributeurs vendent par exemple des services ou des conseils à leurs fournisseurs, un mélange des genres parfois très lucratif. L'enquête parlementaire dont les résultats seront dévoilés à la rentrée portera sur ce point. Réaction de la direction de Leclerc aujourd'hui après cette assignation en justice. Le groupe affirme respecter la loi et agir en faveur de ses clients français et européens.
Merci Claire Chaudière. Réunion de crise à Londres ce matin. Le Royaume-Uni consulte ses alliés avant d'annoncer sa réponse à l'arraisonnement d'un de ses pétroliers par l'Iran vendredi. Et dans ce climat déjà bien tendu, l'Iran a donné ce matin des détails sur les espions présumés des États-Unis arrêtés par Téhéran il y a quelques mois. Siavosh Ghazi.
C'est un fait assez rare. Le directeur du contre-espionnage du ministère des Renseignements a annoncé lors d'une conférence de presse l'arrestation de 17 espions iraniens recrutés par la CIA qui travaillaient dans différents centres stratégiques du pays, notamment liés au programme nucléaire et militaire. Certaines de ces personnes ont été condamnées à mort et d'autres ont été retournées, selon le même responsable. Ils ont été recrutés par des agents de la CIA à l'étranger. Des images de certains agents américains et leur identité prise à l'étranger seront montrées dans un film qui doit être diffusé par la télévision d'État plus tard dans la journée. Cette annonce intervient en pleine tension entre l'Iran et les États-Unis, mais aussi la Grande-Bretagne dans le Golfe Persique, avec la destruction d'un drone ultra-sophistiqué américain par l'Iran ou encore l'arraisonnement d'un pétrolier britannique vendredi. Cette affaire va encore certainement aggraver les tensions entre les États-Unis et plus généralement les pays occidentaux. Terence Yavoshkiazi, RFI pour France Inter.
En Syrie, des raids russes sur un marché ont fait au moins 23 morts dans la région d'Idlib. C'est la dernière principale zone aux mains des rebelles, dont des groupes djihadistes, et qu'essayent de reprendre le régime de Damas. À Hong Kong, un nouveau degré de violence a été atteint hier à l'issue d'une nouvelle manifestation massive. Alors que les partisans de la démocratie rentraient chez eux, certains ont été battus par des hommes armés de bâtons et de battes de baseball et soupçonnés d'appartenir aux triades, la mafia locale. 45 personnes ont été blessées, dont plusieurs sont hospitalisées dans un état grave. Et ce matin, la réaction de la chef du gouvernement était très attendue. À Hong Kong, Florence de Changy.
La chef de l'exécutif, Carrie Lam, a présenté ses condoléances aux blessés de la veille, y compris des journalistes, et a promis que les coupables seraient retrouvés et poursuivis. Mais elle n'a fait aucune annonce importante, ni remis en cause l'attitude de la police, alors que la population est véritablement sous le choc aujourd'hui de la sauvagerie de ses membres de triade, des hommes masqués et en t-shirt blanc pour la plupart, qui ont frappé comme des brutes sur tous les passagers du métro à Yuenlong, une ville faubourg très éloignée de l'île de Hong Kong, les accusant de revenir de la marche d'opposition au gouvernement. Il y aurait des dizaines de blessés, dont une personne entre la vie et la mort. Une femme enceinte aurait perdu son bébé. Or, la police a joué un rôle des plus équivoques. Elle a mis très longtemps à réagir, n'a pas répondu aux appels d'urgence et a même fermé ses bureaux locaux à des gens qui venaient porter plainte. Autre facteur aggravant, un député du camp pro-Pékin, Junius Ro, a été vu et filmé en train de serrer la main de tous ces gangsters et de leur taper sur l'épaule avec le pouce en l'air après les affrontements, ce qui semble confirmer que cette violence était commanditée par certains membres du camp pro-Pékin. Hong Kong, Florence de Changy, France Inter.
Cette fois c'est bon, la fusée indienne Chandrayaan 2 est en route pour la Lune, un demi-siècle après le match États-Unis-Union soviétique et 6 mois après le succès chinois, l'Inde veut être le 4e pays à poser un appareil sur la Lune.
Le journal de 13h sur France Inter.
Une semaine après la terrible collision sur le passage à niveau d'Avenay-Val d'Or en Champagne, les gendarmes de la Marne lancent un appel à témoins. Toute personne qui aurait rencontré depuis le 1er juin des difficultés à cet endroit est priée de se signaler, car depuis la mort de l'assistante maternelle et de 3 enfants, 2 automobilistes ont rapporté des dysfonctionnements sur le passage à niveau, Sophie Constanzer, dont un jeune de 10 ans.
L'automobiliste affirme que la barrière s'est brusquement abaissée sans prévenir au niveau du capot de sa voiture et qu'il a évité de justesse un train passé juste après. Un témoignage troublant donc, car cette barrière de sécurité, elle est au cœur de l'enquête pour comprendre pourquoi la conductrice l'a franchie ce matin du 15 juillet avant de se retrouver sur les voies et d'être percutée par le TER alors même que le signal sonore fonctionnait selon les témoins. Dès lundi, le procureur de la République de Reims, Mathieu Bourrette, rapportait un premier témoignage sur un abaissement intempestif de la barrière la veille du drame.
Il a été porté à la connaissance des enquêteurs que la veille des faits, le 14 juillet, une personne qui avait pu franchir le passage à niveau en sens inverse de celui de la conductrice de ce jour, aurait vu la deuxième barrière pour elle s'abaisser de manière intempestive. C'est évidemment un point à vérifier, mais dont je souligne dès à présent qu'il est extrêmement différent du déroulement des faits supposés de ce jour.
Pas de commentaire sur ce nouveau témoignage du côté du procureur de la République de Reims. Le procureur qui rappelle une nouvelle fois que l'enquête sera complexe et longue. Dès lundi, un expert spécialiste des systèmes de barriérage s'est rendu sur le site de l'accident et son analyse sera bien sûr essentielle.
Après la mort de l'enseignant-chercheur Mamadou Barry, roué de coups vendredi soir dans la banlieue de Rouen, un suspect a été interpellé ce matin. L'homme de 29 ans a des antécédents psychiatriques. Des proches de la victime ont décrit une agression raciste. Il n'y a guère qu'en Bretagne encore qu'on pourra échapper cette semaine à la deuxième canicule de cet été. Météo France a déjà placé 21 départements en vigilance orange dans le sud-ouest et le centre-est, surtout pour le moment, mais à partir de demain. C'est notamment à Paris qu'on pourrait battre un record de chaleur. L'alerte canicule vient justement d'être déclenchée par la préfecture dans la capitale. Rémi Brancato a rencontré une habitante qui vit sous les toits dans le 14e arrondissement et qui se prépare à cuire.
Jessica Petrou-Freling vit seule dans son studio de 23 mètres carrés, très mignon, dit-elle, mais bien trop mal isolé de la chaleur, au quatrième étage, sous un toit en zinc.
La nuit j'ouvre, mais en période de canicule, ça chute peu, et surtout, en fait, les toits gardent la chaleur.
Fin juin, il a fait jusqu'à 35 degrés le soir chez elle, invivable pour la trentenaire qui craque. Elle achète un climatiseur d'occasion, 200 euros, sans compter la facture d'électricité, et l'installation est précaire.
Je suis obligée de laisser la fenêtre entrouverte, en fait, parce que le tuyau est assez conséquent. J'ai une déperdition d'air frais. Même avec la clim, je peux pas descendre en dessous de 30 degrés.
Et avec le retour de la canicule, Jessica va remettre des linges humides dans son lit et tenter de calfeutrer la fenêtre entrouverte.
On m'a conseillé d'acheter des couvertures de survie à mettre à l'envers sur les fenêtres. Parce que le côté argenté repousse la chaleur. C'est le système D.
Alors fin juin, à bout de nerfs sur Twitter, elle interpelle la maire de Paris et le ministre de l'écologie.
Je leur ai fait la petite photo de mon thermomètre en leur disant, bah voilà, aujourd'hui il fait 31, aujourd'hui il fait 34, que fait-on ? J'ai pas eu de réponse, hein, mais ça me défoulait. On nous demande toujours d'ailleurs de faire des économies d'énergie. Moi, je suis dans l'obligation de mettre un climatiseur dans mon appart. J'ai interpellé l'agence qui s'occupe de mon appartement. J'ai pas de nouvelles.
Quant à déménager, impossible pour la jeune femme qui travaille dans l'édition. Les loyers sont trop élevés. Elle paye déjà 870 euros par mois.
70 ans que le Secours Populaire défend le droit aux vacances pour tous. Pour y arriver, l'association recrute notamment des familles de vacances. Marie-Jeanne Delpol s'est rendue à Graillan et l'hôpital dans le Médoc où Christine Gay adopte pour l'été un deuxième petit-fils, Moussa. Il a 9 ans et il vient de la région parisienne.
Accroupie entre la ciboulette et les plants de tomates, Christine, son petit-fils Noah et Moussa, qu'elle accueille pendant 2 semaines chez elle.
Alors, est-ce qu'ils ont poussé nos haricots verts qu'on a plantés ?
Oui, il y en a 4. Qui sont poussés.
Le jardinage, le cinéma, mais aussi, bien sûr, les baignades.
Bon alors, les garçons, on est prêts à aller à la plage ?
Oui, je suis prêt, capitaine !
Et d'ailleurs, c'est grâce à Christine que Moussa a découvert la plage l'été dernier.
C'est la première fois que j'ai vu la mer. J'ai fait un petit peu de surf, super bien.
Et il a tellement aimé qu'il a demandé à revenir cet été. Christine a dit oui, elle ne regrette pas son engagement bénévole.
J'avais envie de faire un enfant heureux, donc je me suis tournée vers le Secours Populaire. Ils ont examiné ma candidature, a priori elle était recevable, donc voilà, on a commencé le jeu.
Parfois ces rencontres d'un été permettent de créer des liens très forts. Martine Ribier du Secours Populaire se souvient par exemple d'une famille qui a accueilli pendant plusieurs étés le même enfant.
Ils sont restés en contact avec cet enfant qui a, je sais pas, 20 ans maintenant et qui revient les voir et qui se considère comme un enfant de la famille. Et ça, c'est ce qu'on recherche, nous, dans cette formule, c'est justement ce lien affectif.
En Gironde, cet été, 14 enfants sont accueillis dans des familles vacances. Ils viennent du département ou alors, comme Moussa, de la région Île-de-France.
Iron Man, Thor, les gardiens de la galaxie, c'est l'histoire d'une bande de super-héros toujours plus forts, au scénario toujours plus incroyable, à défaut d'être toujours inspiré, et toujours plus rentable. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour.
10 ans après Avatar de James Cameron, Avengers Endgame, qui est sorti en avril, a engrangé les plus grosses recettes de l'histoire du cinéma, et c'est toujours Mickey qui se frotte les mains.
Oui, le grand gagnant dans l'affaire, c'est Disney, qui possède désormais dans son catalogue les 5 plus gros succès de l'histoire du 7e art, avec 2,790 milliards de dollars de recettes. Avengers Endgame vient de dépasser Avatar, qui lui-même devance un autre film de James Cameron, Titanic. Viennent ensuite 2 autres productions Disney, Star Wars, l'éveil de la force et un précédent épisode d'Avengers, Infinity War. Mais pour la petite histoire, Red Butler et Scarlett O'Hara mettent officieusement KO Iron Man et Black Widow, si l'on tient compte de l'inflation. D'après les projections des spécialistes, autant en emporte le vent a en effet rapporté l'équivalent actuel de 3,5 milliards de dollars, soit plus que le dernier Avengers sorti en avril dernier.
On va le faire. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix.
Quel qu'en soit le prix.
Quel qu'en soit le prix, on peut en effet se poser la question. Pour s'assurer de monter sur la première marche du podium, les producteurs d'Avengers ont récemment ressorti le film dans une version augmentée de quelques scènes pas forcément indispensables. Les studios Marvel ont en tout cas réussi leur coup et ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'ils ont annoncé ce week-end pas moins de 12 nouveaux films dans les 2 ans qui viennent.
Et après le carton historique d'Avengers, les studios Marvel ont de la suite et des suites dans les idées, c'est à lire sur franceinter.fr. Un dernier mot sur les mondiaux de natation en Corée du Sud. La Française Vatel a terminé 8e du 100 mètres papillon dame qui a été remporté par la Canadienne McNeil.
La météo, avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Soleil, chaleur et canicule, Sébastien Léas.
Attention aux très fortes chaleurs qui se mettent en place dès aujourd'hui. La chaleur va même s'intensifier dans les prochains jours. C'est pourquoi Météo France a émis une vigilance orange à la canicule. Dès cet après-midi, les températures s'envolent sur les régions du sud avec des maximales grimpant entre 29 et 38 degrés, mais des pointes à près de 40 degrés sont attendues. Sur la moitié nord, les températures dépassent aussi le plus souvent les 30 degrés, allant jusqu'à 35 degrés. Et près de la Manche, les maximales sont un peu moins élevées, variant entre 24 et 29 degrés. Cette vague de chaleur sera très intense et devrait prendre fin vendredi sur la moitié ouest et samedi sur les régions plus à l'est. Cet après-midi se passe sous un soleil radieux. Seul le sud des Alpes et l'est des Pyrénées voient des nuages bourgeonner. Ces nuages peuvent tout de même donner naissance à des averses et même à des orages cet après-midi.